Bon, on va commencer pour ne pas se coucher trop tard, parce qu'il y en a qui travaillent demain. Merci d'être venu. Merci, je ne dis pas encore d'être nombreux, mais ça va venir. C'est vrai que les journalistes peinent un peu à relayer nos informations. On aura demain un grand article dans l'ANR, mais je n'ai pas encore réussi à convaincre Centre-Presse et France Bleu Poitou de faire une véritable interview, parce qu'ils sont bien conscients que c'est un sujet sensible, un sujet compliqué, mais ils ne savent pas quel est l'angle d'attaque. Parce qu'il faut trouver un angle d'attaque qui soit recevable par le public. Et c'est tellement un sujet sensible qu'il ne faut pas se tromper. Donc, leurs scrupules les honorent, mais je vais encore réinsister demain. Donc, merci d'être là. On ne va pas faire une conférence, parce que on est entre nous ce soir. Demain soir, il y aura effectivement quelque chose de plus structuré avec l'ensemble Espoir 86 et ses partenaires. Alors, le premier partenaire, bien sûr, le centre hospitalier Henri Laborie, puisque Espoir 86, service d'insertion professionnelle, intervient dans le cadre d'une convention avec Henri Laborie. Et on a les excuses de la MLI qui ne pourra pas être là demain soir. Je continue, je déroule la semaine. Nouveau partenaire important cette année, le Dietrich, qui a axé toute sa programmation de la semaine sur le sujet de la santé mentale. Donc il y a une affiche là-bas sur la porte, vous pouvez noter des choses, vous pouvez aller sur le site du Dietrich, le-dietrich.fr, et j'ai vu que dans les petits présentoirs, là-haut à l'accueil de Mendès France, il y a aussi des programmes. Donc le Dietrich fait l'effort de... Ah ben, il y en a même là dans la salle, vous n'aurez pas besoin de chercher là-haut. Ils sont ici. Donc, le Dietrich fait l'effort de consacrer toute sa semaine à ce sujet-là, et avec un certain nombre de soirées gratuites. Donc, venez participer et inviter vos connaissances au Dietrich. Deux documentaires que je trouve d'un intérêt assez exceptionnel. Le premier, Vite Fou, qui en 55 minutes, je trouve... brosse un tableau sincère, ni à charge, ni brosse à reluire sur ce qu'est la situation de la maladie mentale et de la psychiatrie aujourd'hui. Malheureusement, le réalisateur qui avait choisi Poitiers parmi toutes les sollicitations qu'il avait partout en France s'est démoli l'épaule pendant le week-end, et donc il ne peut pas être là mercredi soir, mais on... On pourra quand même organiser un débat avec le matériau qu'il nous a livré à travers son documentaire. Même chose jeudi soir, donc il y a un documentaire sur le montage d'un spectacle de fin d'année à la clinique de Laborde, donc c'est pas très loin de chez nous, enfin, c'est relatif, à côté de Blois, clinique fonctionnant selon les principes de la psychothérapie institutionnelle. Donc tout ça est intéressant, plus les deux films... qu'on peut aller voir sans engagement, on va au cinéma, on va voir un film, et ça parle de ça comme par hasard. Voilà, je remercie aussi Mendès France qui, comme chaque année, nous ouvre gratuitement ses portes et nous met son personnel à disposition en soirée. Et puis, autrement, on n'a pas trop de partenariats cette année, puisque comme on ne dépense pas grand-chose, ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est de trouver des partenaires pour faire fonctionner les services. Et... on le développera un peu dans la soirée. Le premier de ses partenaires, c'est l'UDAF. Et le second qui monte en puissance, on espère, c'est la mutualité de la Vienne. Donc voilà les partenariats.
Oui, je voulais annoncer qu'il y a des portes ouvertes jeudi à Châtellerault au groupe d'entraide mutuelle Le Fil d'Ariane. Et donc, si vous voulez avoir l'adresse, c'est dans des pliants qui sont sur le présentoir à l'entrée de la salle. Et vendredi, c'est le Fil d'Ariane, groupe d'entraide mutuelle au bonheur du GEM, à Poitiers. Donc, il y a deux adresses à Poitiers. J'insiste parce que ça complète la semaine de santé mentale. Ce sont des adhérents qui participent à faire connaître leurs compétences, à faire connaître la façon dont ils... reprennent pied dans la cité. Et sur Châtellerault, c'est la seule animation qui existe au niveau de la santé mentale. Donc je pense que s'il y a des personnes qui sont intéressées, il faut vraiment encourager ses adhérents et ses initiatives. Merci.
Je propose qu'on fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire que je vais dire un certain nombre de choses parce que j'ai quand même préparé, mais dans la salle, il y a tout un tas de gens qui ont des réponses, qui ont des questions. Je solliciterai les visages que je connais adhérents de l'UNAFAM qui m'ont déjà annoncé et qui voulaient dire telle ou telle chose. Toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser à votre psychiatre, à votre prof de psycho... ou à votre prof de services sociaux dans la cité, c'est le moment de les poser. On n'aura pas forcément toutes les réponses, mais on notera les questions et puis on essaiera d'avoir des réponses. Donc je vous propose un mode de déroulement de la soirée très interactif, puisque c'est un peu comme ça que l'UNAFAM conçoit son rôle dans la cité, c'est-à-dire que nous avons développé, hélas, je dirais, une forme d'expertise par la proximité avec cette maladie et les manifestations qui en découlent. Donc dans la salle, il doit y avoir un certain nombre de parents d'eux, il doit y avoir un certain nombre de gens malades, il doit y avoir un certain nombre de professionnels. Donc chacun a ses morceaux de réponse, et la façon dont l'UNAFAM conçoit son rôle, parmi ses rôles, c'est de faire que ces gens-là sortent de leur case habituelle et se parlent pour trouver des solutions globales. Puisque nos problèmes sont globaux et la maladie mentale se caractérise, c'est une des grandes définitions, par l'incapacité globale à agir. Et donc tout le défi pour nous en face, c'est de trouver les capacités globales à réagir. Personne n'a toute la réponse. Moi, je ne suis pas un professionnel de la profession, comme disent les artistes. On a développé quelque chose, on a vécu des expériences, on a essayé de mettre en place des services, on a été confronté à des difficultés, on a vécu des emmerdes, des souffrances. Donc c'est tout ça qu'on peut partager. Le nombre permet encore de le faire. Donc pour ceux qui débarquent quand même et qui découvrent, je pense qu'il faut faire un petit topo préalable. Donc... c'est quoi la maladie mentale? Ça a assez peu à voir avec le handicap mental. Hein, c'est une maladie acquise, c'est une maladie qui se développe en général dans le jeune âge adulte. Il y a là-haut un certain nombre d'entêtes, puisque ça, je suis allé le chercher sur le site de l'UNAFAM, où vous pouvez télécharger ce petit livret qui existe aussi en papier, que les professionnels peuvent se procurer auprès de l'Union nationale des CCAS, auprès de l'Union nationale des services de soins à domicile ou auprès de l'UNAFAM. Donc un livret sur accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques. Donc les troubles psychiques, c'est quoi? C'est la névrose, la psychose, les addictions, les dépressions. Et puis on peut ajouter les TOC, et puis dans les névroses, je suppose, alors s'il y a des professionnels dans la salle, ils peuvent me corriger, il doit y avoir les troubles de l'angoisse, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, nous, on est un peu plus centrés sur les psychoses, donc schizophrénie et troubles bipolaires, donc, qui sont parmi les maladies les plus graves du secteur. Alors c'est sûr que la dépression, on peut en mourir. Donc je ne vais pas dire que la dépression c'est pas grave, mais les psychoses, c'est ce qui entraîne les troubles les plus envahissants ou les plus dévastateurs. Donc si on fait les comparaisons, handicap mental, handicap psychique, si vous voyez rien, vous dites que je grossisse le... Donc handicap mental, il y a une cause souvent identifiée, soit qu'on diagnostique, soit qu'on connaît l'épisode qui a amené à ça, la trisomie 21, souffrance à la naissance, etc. Psychique, c'est un multifactoriel. Et puis celui qui dit qu'il connaît la cause... il ne faut pas le croire, c'est un mariole. En général, il est impossible de connaître la cause de la maladie psychique parce que c'est multifactoriel. Donc il y a des dimensions génétiques, il y a des dimensions de de traumatisme, il y a des dimensions peut-être infectieuses, etc., etc. Donc déjà, c'est assez différent. Là, ça ne se soigne pas avec des médicaments, et là, ça se soigne avec des médicaments. Donc il y a des soins au long cours. Là, on considère en gros que c'est relativement stable. Bon, un individu n'est jamais complètement stable, mais ce qui est lié directement au trouble est stable. Là, c'est tout le contraire. Donc c'est comme ça. Donc c'est imprévisible, c'est soudain, ça peut être soudain. La prise en charge est assez différente. Donc ça fait, voilà des grandes catégories. Je ne sais pas si quelqu'un veut en ajouter d'autres, parce que je dois en oublier certainement. Donc les démarches, les accompagnements sont sensiblement différentes. Le problème, c'est que notre vocabulaire ne nous aide pas, parce que c'est la maladie mentale qui entraîne une déficience, qui entraîne un handicap psychique. Donc notre vocabulaire est assez ennuyeux de ce point de vue-là, parce qu'on parle bien de la maladie mentale. Donc des incapacités. Et des handicaps. Alors on reviendra peut-être sur cette question du handicap. Ça a agité des générations de psychiatres et de proches de malades pour savoir si c'était un gros mot que handicap. Je pense que depuis la loi de février 2005, la question est réglée. Il y a des handicaps, il faut le reconnaître, et c'est le seul moyen d'obtenir les compensations prévues par la loi du 11 février 2005. Si on ne reconnaît pas qu'il y a handicap, il n'y a aucune raison de mettre en place toutes les mesures de compensation. Donc cette pureté idéologique conduit en fait très directement à la non-assistante à personne en danger. Et puis handicap, comme le savent tous ceux qui travaillent un peu dans le sujet, handicap, c'est pas quelque chose qui est défini dans l'absolu, dans un bocal, etc. C'est grandement dépendant de la façon dont est organisé l'environnement. Donc effectivement, un type en fauteuil roulant, s'il se déplace dans une grande surface, a priori, il rencontrera, enfin une grande surface commerciale, je veux dire, il rencontrera pas forcément de handicap, puisque tout est prévu pour les caddies, et lui, dans son fauteuil roulant, il se débrouillera assez bien. S'il veut descendre un emmarchement où on n'a pas pensé à lui, son handicap se rappelle lourdement à lui. Donc il n'y a pas de handicap sans définir ce qu'est l'environnement. Si on est dans un univers bienveillant ou si on est dans un univers stressant, la fragilité psychique se manifeste pas de la même façon. Hein, donc handicap, ça n'existe pas dans l'absolu, on est toujours handicapé au regard de conditions de vie qui nous sont faites. Ça, c'est le premier point. S'il y a des questions là-dessus, on peut, ou des compléments, ou des observations, ou des pas d'accord, on peut faire une pause sur le sujet. Ou si moi-même, vous pensez que j'ai raconté des bêtises, vous pouvez le dire. On continue. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes ces maladies, tous ces troubles-là sont à mettre au pluriel. Hein. Donc, il n'y a pas la schizophrénie, le schizophrène, le bipolaire, il y a des schizophrénies, des maladies bipolaires et des malades dans une histoire singulière avec des familles singulières. Donc ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, même si le boulot des politiques publiques et le boulot des associations comme nous qui essaient de mettre en place des services de compensation, c'est d'essayer de trouver des constantes. Il y a des formes de constantes, mais il faut toujours savoir s'arrêter avant la généralisation abusive. Donc, personne n'étant à l'abri de ces généralisations, si moi-même je dérape, rappelez-moi à l'ordre, pour mes pluriels. Est-ce à schizophrénie, est-ce à malade, est-ce à famille, est-ce à trajectoire. Donc ensuite, les statistiques, ça représente en gros 1% de la population souffrant de psychose gravement invalidante. Alors 1%, c'est pas beaucoup, sauf quand on fait les multiplications par l'assiette. Quand on est à Poitiers, 90 000 habitants, 900 autochtones souffrant de ces troubles-là. 900, ça fait normalement autant de familles. Donc on multiplie par 4 ou par 5 selon le cas. Donc on a la famille nucléaire proche, plus les copains, plus éventuellement les collègues de travail, etc. Donc ce n'est pas que l'histoire des autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, cette affaire-là. Or, c'est un peu la réaction que nous avons quand nous commençons à en parler. Donc, cette statistique-là, pardon, est importante. Comment est-ce que la maladie se déclare ? Ben, y a quelquefois des signes avant-coureurs, quelquefois il n'y en a pas. Elle se déclare le plus souvent au jeune âge adulte, donc de 18 à 25 ans chez les hommes et souvent plus tard chez les femmes, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il n'y a pas forcément de cause, comme je le disais au début. La difficulté, c'est que effectivement, ça peut se confondre avec tout un tas de manifestations habituelles ou normales de la crise d'adolescence. À ce point, il faut bien sûr parler des addictions, de la drogue et autres. Est-ce que c'est la drogue qui entraîne la décompensation psychotique ? Sans doute pas. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les gens qui consomment de la drogue et les psychotiques, oui, supérieurs à la moyenne en population générale ? Donc, où est l'œuf, où est la poule ? Est-ce que c'est parce qu'on est fragile psychiquement qu'on est un peu plus incité à consommer des produits psychotropes ? Est-ce que c'est la consommation des produits qui entraîne la décompensation ? Je pense que personne n'a d'avis définitif là-dessus, mais en tout cas, ça peut être un signe d'alerte. Est-ce qu'on guérit, est-ce qu'on guérit pas ? Ben ça, on y reviendra après. C'est une question très complexe. Et effectivement, il y a des épisodes qui ressemblent à des compensations psychotiques et puis qui sont uniques dans une existence. Et puis après, les gens vont bien. Il y a eu ça, notamment dans les années 70, les voyages en Inde, les gens qui restaient perchés un certain temps, ils revenaient, ils n'étaient plus perchés. Bon, tant mieux. On le retrouve aussi aujourd'hui, des épisodes isolés. Donc c'est effectivement là que ça devient difficile, à savoir que faut-il annoncer le diagnostic aux personnes concernées ? Faut-il annoncer le diagnostic aux parents ? Combien faut-il de temps pour annoncer ce diagnostic ? Je suppose qu'il y a des expériences dans la salle et on pourra en parler. Stabilisation, pas stabilisation. On reviendra aussi sur cette notion-là qui est une notion essentielle. Qu'est-ce que c'est que la stabilisation ? La trajectoire, elle est comme ce que j'ai dessiné sur le paperboard dans la colonne de droite. C'est une trajectoire que peu de gens accueillent spontanément. Les soignants rêvent de la belle trajectoire. On te soigne, on te remet sur pied et tu vas bien. Les travailleurs sociaux rêvent tous d'une belle trajectoire d'insertion. On parie sur toi, on te fait confiance, on te fait accoucher de ton projet de vie. Et voilà, après, ça doit rouler. Et ben non, ça marche jamais comme ça avec nous. Donc la trajectoire, elle a toujours cette allure-là. Et il faut savoir jouer avec. Donc les grands programmes d'évaluation des politiques publiques avec un taux de réussite supérieur à 60% pour que le programme soit reconduit l'année suivante, ça c'est dramatique parce que c'est méconnaître la réalité des choses. De la même façon, un taux de rechute ne veut rien dire dans la mesure où on ne sait pas quel est le soin qu'on a assuré en continu. Donc, ces questions-là, elles sont très, très mal perçues par, je dirais, chacun des acteurs. Elles sont mal perçues par le malade, elles sont mal perçues par sa famille, elles sont mal perçues par les soignants, elles sont mal perçues par les travailleurs sociaux, et sont mal perçues par les politiques et par tous ceux qui font des efforts. Donc ça, c'est une très, très grande difficulté, cette trajectoire chaotique, un peu imprévisible. Ça fait partie des grandes difficultés du jeu. Alors, j'ai envie de passer la parole à M. Dufour, qui nous a un peu raconté dans la délégation départementale son itinéraire. Je ne sais pas s'il se sent prêt à intervenir comme ça, si il veut que je continue encore un petit peu le topo, ou si... Donc, itinéraire de quelqu'un qui nous a rejoint il y a assez peu de temps et qui, en couple, a été en mesure de faire une analyse de son expérience qui a enrichi, je crois, la délégation et les professionnels.
Voilà, oui. Mon fils aujourd'hui a 23 ans. Donc ça lui est arrivé à 21 ans. Donc vous voyez, donc jeune adulte, comme on vous l'a dit. Nous, c'est arrivé en venant de vacances. Alors, il avait 21 ans. Vous imaginez bien qu'à 21 ans, un fils, il ne vient pas en vacances avec ses parents. Ça. Donc on avait quelques inquiétudes juste avant les vacances parce qu'on le trouvait un petit peu bizarre. Et puis en rentrant de vacances, eh bien complètement parti, on ne comprenait plus ce qui lui arrivait, même lui était en souffrance. Alors là, bien sûr, l'incompréhension. On nous a... il fumait du cannabis, comme beaucoup de jeunes. On nous a conseillé d'aller vers le tourniquet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ont dit là, à ce moment-là, c'est impossible, on ne peut rien faire.
C'est quoi le tourniquet, il faut dire ?
Alors, le tourniquet, je ne sais pas. Alors, voilà. C'est pour les jeunes qui ont des problèmes avec la drogue, je crois.
Donc, c'est une émanation du centre hospitalier Henri Laborie, situé à. Voilà. Et donc, qui prend en compte.
Voilà, des jeunes en difficulté qui ont des problèmes avec la drogue, apparemment. Donc, il y a des permanences. Et puis, il y a des. Quand il y est allé, eh bien, ils ont dit non, là, c'est trop grave. Donc, il s'est retrouvé tout simplement aux urgences. Alors, aux urgences, il a été hospitalisé, donc, à Henri Laborie. Et puis, on ne comprenait rien. L'incompréhension totale. On a été pratiquement pendant 10 jours, on ne savait pas. On essayait de contacter le médecin, les infirmières, enfin même, on attendait, on espérait au moins qu'on nous prévienne, quoi. C'est-à-dire qu'on n'osait pas trop non plus, nous, on demandait quelques nouvelles, mais timidement, parce que quand ça vous arrive, une chose comme ça, vous imaginez un petit peu. Alors, bien sûr, on passe par toutes les étapes de culpabilité. Ça, c'est, je pense que tous les parents à qui ça arrive en sont là. Et puis, là, le gros problème... le problème de on ne sait pas ce que c'est, on ne nous informe pas, on ne sait pas où aller. Alors je ne vous explique pas l'incompréhension, la solitude. Alors en plus, on a eu la malchance, je dirais. On est allé voir mon fils une fois, et puis on est allé dans la salle d'attente, enfin la salle de discussion, où il y avait d'autres malades. Une dame là qui était en dépression, qui a commencé à dire « Oh là là !» Qu'est-ce qu'on est plus mal qu'à l'hôpital à Toulouse ? Alors, je parle à Toulouse, à la ville de Toulouse. Hein. Bon, faut se mettre dans la situation dans laquelle on était, hein, parce que ça, il faut le prendre après avec recul, bien sûr, tout ce que je dis. Hein. Une autre personne, donc bien malade, qui rechargeait son portable avec son paquet de cigarettes. Et mon fils, bien sûr, parce qu'une chose importante, c'est que les malades psychiques ont toutes leurs facultés intellectuelles. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, ils peuvent vous parler très bien comme ça. Donc ils commencent à nous dire, mais écoutez, vous n'allez quand même pas me laisser là, quoi. Alors nous, grosse incertitude, gros doute, etc. L'incompréhension totale. On nous a dit, oui, mais votre fils, vous comprenez, il faut le faire soigner, etc. Il a tellement insisté, nous on ne savait pas trop quoi faire, et puis on avait des difficultés. Donc on l'a fait sortir pour le faire soigner en libéral en ville. Bien sûr, ça a été l'échec. Et puis ça a continué. Alors tout ça pour vous dire, je vais m'en arrêter un petit peu là. Alors tout ça, on a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a rien compris au départ. Notre fils n'a rien compris. Avec le psychiatre, on ne comprenait pas. Pas de communication. L'échec total. On n'avançait pas. Donc le gros problème était là, c'est que personne ne se comprenait. Alors, pour confirmer ce dire, j'ai mon fils aîné. Il est venu un jour à une consultation. Et puis quand il est sorti, il a dit « Mais je ne comprends rien. Vous parlez la même chose. Vous ne comprenez pas. Vous ne communiquez pas. » Alors, bon, par la suite, donc, on avait après d'autres problèmes parce qu'on allait le voir régulièrement. Donc nous, on a demandé, il est allé, on voulait qu'il s'éloigne un petit peu de nous. Donc il est allé sur Bordeaux. Il a eu un traitement, etc. Ça allait mieux. Et pour vous expliquer l'autre phénomène qui est effectivement que ça ne se passe jamais comme on pense, ça allait beaucoup mieux. Il a commencé à faire un stage à la FPA qui était... les métiers de découverte des métiers du bâtiment. Nous, ça nous semblait être un petit peu, bon, justement, assez facile. Donc on s'est dit, là, on va voir ce que ça donne. Il a fait une semaine, et puis au bout d'une semaine, il se trouve qu'il a eu un entretien avec le médecin du travail qui lui a dit, vous savez, méfiez-vous, parce qu'avec les traitements que vous avez, il y a peut-être des problèmes d'attention, ce qui est vrai. Lui, il s'est senti en difficulté et il a replongé. Donc ça explique un petit peu ce que disait M. Pétard, c'est-à-dire qu'en plus de toutes ces choses-là, il y a des hauts et des bas, on pense que ça va mieux, ça ne va pas mieux. Alors je ne vous explique pas non plus, c'est jeune, on est tous dans le même cas, le fait qu'ils arrêtent les médicaments. Parce que pour leur faire prendre les médicaments, je ne vous explique pas. Alors, faut qu'ils les prennent d'eux-mêmes, mais ils ne les prennent pas forcément, donc on insiste, etc. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on est reparti, alors maintenant, bien sûr, avec recul, parce qu'il faut du recul. D'abord, il y a de l'apprentissage, il faut apprendre, il faut de la patience. Je pense que ça, c'est des choses à... Donc, on est reparti maintenant sur de nouvelles bases. Donc, on est reparti, il a été hospitalisé à l'hôpital, où là, je pense que nous, on comprend, le psychiatre nous comprend, notre fils, c'est-à-dire que là, maintenant, on a vraiment un travail en commun. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui se passe, tout le monde se comprend. Nous, on se repose maintenant sur le psychiatre, c'est-à-dire qu'on accompagne, parce qu'à un moment donné, quand on a un fils comme ça, il faut aussi quand même l'accompagner. Mais on ne peut pas l'accompagner tout seul, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on se repose, il faut que cette communication, ce dialogue soit important, parce qu'on peut accompagner que si tout le monde tire la ficelle dans le même sens. Donc là, je pense que ça se passe, c'est ce qui se passe. Alors, il ne faut pas croire que non plus c'est miraculeux, parce que, étant donné quand même qu'il était bien, bien malade, je pense qu'il a eu un traitement de choc assez important, qui est lourd à supporter, que nous aussi, il faut qu'on comprenne, on accepte, etc. Mais je crois que tout le monde, on est parti sur... Et en plus, je pense que le malade, à partir du moment où il y a un cadre, où il y a une orientation... où il commence à se sentir, j'irais, dans une certaine sécurité. Déjà, il se sent mieux. Je pense qu'ils ont besoin de se sentir un peu en sécurité. Je ne sais pas si tous les membres de l'UNAFAM. Donc le fait qu'il y ait comme ça quelque chose qui soit clair, avec des orientations, des règles, et que tout le monde va dans le même sens, que ça communique bien, ça se passe, ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Donc, mais je crois que c'est la grosse difficulté. Quand ça nous arrive... ça nous tombe dessus. On a utilisé des termes comme, je ne sais plus ce que c'était, séisme, cataclysme...
Tsunami.
voilà. Alors, avec quand même une j'en parlais justement à l'instant, avec une différence importante quand même, c'est que nous, on se sent seul. C'est-à-dire que tout le monde autour de nous, un séisme, tout le monde est concerné. Là, non, on se retrouve seul. Il y a même des gens qui s'éloignent, il faut savoir, qui s'éloignent, parce qu'ils peuvent. je ne sais pas, ou ils ont peur. Ou, alors c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas technique, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui a une maladie qu'on peut expliquer. C'est pas technique, c'est effectivement mental. Mais donc on est seul. Et ça, la solitude, c'est-à-dire que parce que les malades sont seuls aussi. Il est évident qu'avec les enfants, avec les copains, etc., ils se retrouvent. Il y a des copains qui bon, c'est difficile aussi. Donc il y a cette grande solitude, et cette grande solitude, quand ça vous tombe dessus comme ça, je pense que voilà. Donc je pense avoir à peu près expliqué ce que j'avais.
Un des besoins qu'on a identifié à l'UNAFAM, c'est qu'effectivement l'ensemble du système soignant social prenne en compte l'ensemble du système malade et ses proches, hein, puisque là on a. Dans toutes les écoles d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, ça paraît naturel à tout le monde quand on fait le petit schéma et quand on explique qu'effectivement le mec qui est en haut des marches avec son fauteuil roulant, s'il n'y a pas de marche, il sent moins son handicap. Quand on parle du handicap psychique, on ne sait pas pourquoi, ça paraît tout de suite moins évident. Hein, que la famille fasse partie du système et que la famille doive aussi être accompagnée, comprise, prise en charge. Et qu'il ne suffit pas qu'effectivement, au bout de 15 jours, 3 semaines de traitement de crise, parce que c'est à peu près ça le standard à l'hôpital, on mette le malade dehors en lui disant bah, « de toute façon, tu as ta famille, maintenant démerde-toi ». Je caricature et je suis un peu brutal, mais c'est un peu comme ça que nous le vivons. Hein, donc c'est pas... Encore une fois, mon propos n'est pas du tout une attaque du système de soins et des soignants qui y travaillent, mais c'est la perception que nous en avons. Nous ne faisons pas partie du système du malade.
Oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué aussi les difficultés que les premières sorties, c'est-à-dire que juste à la fin, bon, il sort de l'hôpital et qu'est-ce qu'on fait ? J'ai aucune réponse. Il s'est retrouvé à la maison. Il s'est retrouvé à la maison et puis nous, on travaillait tous les deux. Et alors, par contre, quand on parle de shit, de cannabis, etc., une chose est claire, je ne sais pas si c'est l'origine, mais par contre, une fois qu'ils sont malades, alors là, ça devient, dès qu'ils en prennent ou avec les médicaments et tout, c'est une catastrophe. Hein. Il suffit qu'ils aillent voir les copains, qu'ils fument un joint ou deux, et puis ça y est, c'est foutu. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est clair, qu'une fois qu'ils sont malades, c'est... Enfin, en ce qui concerne mon fils, c'est quelque chose qui est très, très néfaste. Donc c'est sûr que quand ils sortent, et même encore d'ailleurs, parce qu'il va sortir de l'hôpital, la difficulté, bah, c'est toute la suite. Bon, là, pour le moment, on arrive à trouver des solutions. Alors en plus, il y a peu de place. Il faut attendre. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on essaye de trouver des solutions un peu intermédiaires qui ne sont pas évidentes. C'est pour ça que je vous dis que c'est pareil. Il faut toujours, je pense que ce travail commun... Je pense que le travail commun avec la famille est indispensable. J'ai même commencé à aborder, même, je pense, enfin, l'UNAFAM en est conscient, c'est l'impact sur les frères et sœurs. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'on a l'impression qu'on les oublie, mais ce n'est pas forcément négligeable. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, quoi.
Le système intègre les frères et sœurs, c'est-à-dire que... Effectivement, ça a été un peu un coup de tonnerre dans le ciel de l'UNAFAM, association de parents, quand au congrès, je crois que c'est 2005, est sorti un rapport sur la façon dont les frères et sœurs vivaient ça. Donc les frères et sœurs, c'est ceux à qui on demande de moins penser à eux, parce qu'il faut que les parents pensent au frère ou à la sœur malade. C'est ceux qui doivent de toute façon accueillir le frère ou la sœur malade au mariage parce que sinon ils ne comprendraient pas. C'est eux qui de toute façon doivent faire tout un tas de choses parce que c'est comme ça qu'ils doivent vivre. Et ça, les frères et sœurs le vivent souvent très mal. Donc le système familial comprend les frères et sœurs. L'UNAFAM n'est pas qu'une association de parents, ça peut et ça devrait être davantage d'ailleurs une association aussi de frères et sœurs, de conjoints ou d'enfants de personnes malades. Alors après, donc on a évoqué le soin là. Ça c'est forcément le premier point le plus important. Donc ça, ça fait partie du plan d'urgence de l'UNAFAM de 2002. L'urgence demeure vraie. Il faut entrer dans le soin. Et il ne faut pas en sortir. Alors le problème, c'est que en France, on n'a qu'un pauvre mot pour dire soin. Les Anglais, je ne suis pas toujours fasciné par les Anglais, mais les Anglais ont deux mots, care et cure. Hein, donc cure, c'est je te soigne, je te remets debout et hardi petit. Et puis care, c'est je prends soin de toi. Et là, nous, on est sûr qu'il y a du soin cure au long cours, mais il y a aussi du soin care indispensable, et celui-là, bien plus qu'au long cours encore. Donc il faut rentrer dans le soin. Là, Jean-Louis Dufour est passé un peu rapidement sur la question de l'hospitalisation. Hospitalisation sans consentement, là aussi, la société française est un peu rebelle et on a toujours peur de faire de l'internement abusif. Hein. On n'est pas en Union soviétique, chacun est libre, la société est pourrie, les gens qui sont malades, finalement, c'est une forme de santé que de rejeter la société, etc. etc. C'est un peu un discours qui court dans certaines sphères. Ne pas hospitaliser quelqu'un en crise, c'est non-assistance à personne en danger. Donc la crise psychique, la décompensation, c'est comme la crise cardiaque, quoi. Il viendrait à personne l'idée de dire « Mais non, mon petit bébé, tu veux pas la soigner, ta crise cardiaque, oh, ben, on verra ça demain ou dans une semaine, peut-être que tu te sentiras mieux, etc. » Pour la crise psychique, c'est pareil. Ça relève du diagnostic d'urgence et effectivement, ça brasse celui qui signe l'hospitalisation à la demande de tiers. Mais l'entrée dans le soin commence le plus souvent par là. Donc la HDT, la fameuse HDT, dans cette salle, il y en a un certain nombre qui ont apposé leur signature sur une HDT à plusieurs reprises. C'est la condition sine qua non le plus souvent de l'entrée dans le soin. Donc là aussi, les familles aimeraient qu'on leur explique un petit peu en quoi consiste ce geste-là, quelle est la nécessité de le faire, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, etc. Et puis qu'éventuellement, ils soient accompagnés pendant les épisodes de transfert. On n'a pas forcément besoin d'un gyrophare bleu, mais quelquefois, une forme d'accompagnement, là aussi, notre société française n'est pas outillée pour accompagner les proches dans la première hospitalisation, la HDT. Alors après le soin, c'est pas parce qu'on a mal à l'âme qu'on n'a pas mal au corps ou qu'on n'a pas des caries dentaires, etc. Or, une des manifestations de la maladie psychique, c'est le manque d'intérêt pour soi. Les gestes d'hygiène, de santé, etc., sont rarement naturels, au moins dans les premiers temps. Donc, le soin, c'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi être attentif à ses bilans sanguins, à l'état de ses dents et à un certain nombre d'autres choses dont on n'est pas dispensé parce qu'on est malade psychique. Mais là aussi, quelquefois, c'est un peu passé derrière. Deuxième point essentiel, pour vivre, il faut des ressources. Au nom de quoi donner des ressources à quelqu'un qui ne bosse pas, alors qu'il est sur ses deux jambes, alors que, a priori, il sait faire plein de choses, hein, comme ça a été rappelé. On voit bien, quand il joue sur son ordinateur, il va vachement vite, il est vachement futé. Les sites internet n'ont pas de secret pour lui. Les programmes, les téléchargements, les machins. Il peut tenir 20 minutes le dialogue avec n'importe qui, philosopher, etc. Et vous voudriez qu'on lui donne du pognon à ne rien faire. La question de la société, elle est légitime. Si on refuse de passer par la case handicap, si on ne reconnaît pas l'incapacité globale à agir qui est le résultat de la maladie mentale, effectivement, on ne peut pas se sortir de cette accusation. Donc il faut, et ça donc, c'est un peu les victoires des 10 années passées, reconnaître que handicap il y a, et que ce handicap justifie par la société au nom de la solidarité nationale l'attribution de ressources. Donc ressources, allocation adulte handicapé. Donc ça veut dire qu'il faut constituer un dossier et interpeller la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on a 21 ans, 22 ans, 25 ans, qu'on a les neurones qui fonctionnent par certains aspects, de considérer qu'on doit endosser le costard du handicapé. Mais n'empêche que c'est un élément nécessaire pour accéder à cette solidarité et à cette compensation que la société reconnaît enfin comme nécessaire. Donc le troisième point, il faut avoir un toit sur sa tête. Sinon, c'est la rue. Puis la rue, c'est pas bon pour le soin non plus. Donc un toit adapté. Alors c'est quoi un toit adapté ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit adapté ? Encore, il n'y a pas besoin de largeur de porte ou de giration dans la salle de bain. C'est adapté, ça veut dire que éventuellement la personne qui l'occupe n'est pas en mesure de l'occuper, comme on dit, en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il est susceptible de mettre sa chaîne à 2h du mat, il est susceptible de ne pas sortir ses poubelles, il est susceptible de stocker tout un tas de déchets, parce que se séparer de ses déchets, c'est se séparer d'une partie de lui-même. Donc il faut que autour quelqu'un veille. Alors est-ce que c'est la structure qui propose le toit ? C'est le cas dans un certain nombre de services comme les foyers d'accueil ou les maisons relais, où ça peut être l'objet d'un autre service. C'est le quatrième point de notre plan d'urgence. C'est l'accompagnement social. Puisque cette incapacité à agir, ce stress de la décision, ce fait de se recroqueviller dans son lit, ce que certains psychiatres appellent l'auto-internement. C'est-à-dire que nous, on a toujours peur de faire un internement abusif, mais la personne qui vit chez elle isolée est en état d'auto-internement. Donc auto-internement fait qu'il n'y a plus de vie. Et donc pour briser ça, il faut un accompagnement social. Donc il faut qu'il y ait un service organisé pour ça. Pour que ce service passe, il faut que ce handicap soit reconnu et il faut qu'il y ait une décision en ce sens de la MDPH, mais il faut aussi et surtout que le service existe. Or, jusqu'à il y a 3 mois, ce service n'existait pas dans la Vienne. Donc, ce fut une bagarre assez longue avec le Conseil général pour qu'il reconnaisse enfin que ce service était partie intégrante du dispositif. Donc il existe aujourd'hui pour, Jean, combien de places ? 15 places autorisées en 2009. Les petits tableaux nationaux de l'UNAFAM disent qu'il en faudrait 300 pour 100 000 habitants. Puisqu'il y a 1% de la population, on est 400 000 dans la Vienne. Donc ça fait 4 000 personnes touchées. Et on estime que parmi ces 4 000 personnes touchées, il y en a 1200. Qui relèverait de la nécessité de l'accompagnement d'un tel service, médicalisé ou pas. SAVS, hein, donc service d'accompagnement à la vie sociale, ou SAMSA. SAMSA, c'est un peu la même chose, avec en plus une bonne dose d'accompagnement médical. Donc il nous faut 1200 places dans la Vienne, grande victoire, nous en avons. Bon, je vois que vous suivez, c'est le premier mouvement qui compte, mais quand même. Donc l'accompagnement, c'est ça. Et si pas accompagnement, alors la spirale de dévastation peut s'enclencher très facilement. Alors il y a un certain nombre de gens pour lesquels c'est leur famille qui tient ce rôle d'accompagnement. Donc les familles qui peuvent, qui se sentent armées, qui sont suffisamment costauds, etc. Bravo les familles, ça coûte moins cher à la société et puis c'est peut-être pas mal. Mais d'une part, ces familles-là peuvent s'user, soit s'user par l'âge, soit s'user par le fait que pendant ce temps-là, on vit un peu moins pour soi et un peu plus pour l'autre. Donc, peut-être que ça marche un certain temps.
Je peux me permettre d'intervenir ?
Ah, mais bien sûr.
Ça, c'est le gros problème. Hein. Quand on est deux à travailler avec un enfant comme ça, quand il revient à la maison, hein, on en reparle, hein, l'accompagnement, c'est invivable. Hein. Parce que d'abord, on s'inquiète. On ne sait plus, on le surveille, ils se sont surveillés, vous imaginez, à cet âge-là, parce qu'ils sont tout, ils ont tout, enfin, beaucoup en cet âge-là, hein, donc ils sont majeurs quand même. Hein. J'insiste un peu lourdement à cause de ça, parce que nous, on l'a vécu très très mal. Hein. Il y a même certaines familles où c'est l'explosion de la famille. Hein.
Oui, parce qu'il suffit que la mère veuille jouer ce rôle et que le père dise... Tu commences à m'emmerder avec ça, on va aussi vivre pour nous. Pure hypothèse. Hein. Ça, c'est lui ou moi, hein, ça, etc., etc.
Donc très, très difficile à vivre, et puis ça ne peut pas durer éternellement, ce n'est pas possible. Hein. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, eux-mêmes, je pense, veulent leur autonomie, c'est important quand même, aussi, pour ceux qui le peuvent. Soit, ça c'est clair.
Donc il ne nous reste plus qu'à provoquer l'ouverture de 1185 places de SAVS ou de SAMSA. Voilà les besoins des familles. Ensuite, on continue les besoins. Cinquième point, la protection juridique, si nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. Alors, protection juridique, c'est curatelle ou tutelle, selon la gravité de la situation. Et puis, le sixième point, si possible, une activité. Alors, une activité, forcément, les parents, spontanément, quand ils viennent nous voir, ils disent... Aidez-nous à lui trouver un boulot. Quand il aura un boulot, il sera stabilisé, il servira à quelque chose, il aura des ressources. Il aura des ressources, il pourra se payer un toit, etc. Et on sera sauvé. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche dans l'autre sens. Et il faut que tout le reste soit assuré pour que l'activité ait une chance de fonctionner, notamment l'activité professionnelle. Donc je passe un peu rapidement là-dessus, puisque c'est l'objet de toute la soirée de demain avec les professionnels du secteur qui, donc les professionnels partenaires UDAF, qui font un travail remarquable sur le sujet. Côté activité professionnelle, mais il n'y a pas que l'activité professionnelle dans le milieu ordinaire de travail. Il y a aussi l'activité professionnelle dans des univers particuliers, donc établissements et services d'aide par le travail. Hein, donc la Vienne a été assez précurseur dans ce domaine-là avec, à l'époque, c'était le CAT de l'Essor qui avait été créé par des soignants de Laborie. Donc quand on reçoit nos homologues d'autres délégations départementales de l'UNAFAM, souvent on leur fait visiter l'Essor, donc ils nous envient. Mais moi, je suis obligé de faire le pisse-vinaigre pour dire que nos petits tableaux disent qu'il nous faudrait, en gros, 600 places en ESAT spécial psychique dans la Vienne et que donc l'Essor en propose 181. Donc, on est pas mal quand on se compare. Mais quand on se regarde et qu'on analyse les besoins en fonction de grilles qu'en gros personne n'a contesté quand l'UNAFAM les a sortis, le compte n'y est pas, quoi. Il en manque juste 70% des places dont on aurait besoin. Donc ça, c'est l'activité de type professionnel. Et puis il y a l'activité pas professionnelle. Je repasse le micro à Anodile.
Tu passes. Oui, je suppose qu'il faut parler un petit peu des groupes d'entraide mutuelle.
Voilà.
Il s'agit en effet pour des personnes qui vont un petit peu mieux, ou même parfois qui ne vont pas encore très bien, mais qui peuvent trouver donc dans une association d'adhérents, d'abord des animateurs qui les accueillent, qui comprennent leurs besoins, qui les acceptent tels qu'ils sont, et qui petit à petit peuvent les aider à sortir de l'isolement et à retrouver avec d'autres personnes qui sont comme eux un petit peu de goût à reprendre des activités et à retrouver des compétences, à se sentir valorisés à travers des activités qu'ils réalisent ensemble. Peut-être que si d'autres veulent parler du groupe d'entraide mutuelle. On est bien représenté ce soir.
Oui, eh bien bonsoir, je suis la nouvelle présidente de Bonheur du GEM. J'ai toujours des difficultés à parler parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai repris mon travail et je sais que c'est grâce aux filles d'Ariane que j'ai repris mon travail. Et c'est vrai que je me sens très très bien et je souhaite à tout le monde de venir parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, merci.
Oui, bonsoir. Oui, ben moi je voulais dire à peu près la même chose, sauf que je n'ai pas pris le travail, moi. Mais c'est déjà pas si mal d'aller au fil d'Ariane. On fait plein de choses. Quand on n'a plus presque aucun goût à la vie, on se sent avec les autres et on fait plein de choses du matin au soir. Donc ça prend des journées quand même. Alors c'est formidable. Et puis malgré la maladie, ben on avance. Et puis ma foi, ben en espérant que bon nombre se vont sentir concernés, et puis par vous, les parents ou autres, amis, et venez nous trouver, et vous verrez qu'on y passe d'agréables moments. Bonsoir.
Oui, ça n'est pas une vieille histoire, mais ça remonte déjà il y a une quinzaine d'années. Avant qu'il n'y ait une section, une AFAM à Poitiers, il y avait une association de parents qui s'était constituée, conseillée par un médecin. Et ils avaient choisi pour la désignation de cette association un terme très approprié, vivre aussi. Ils voulaient proclamer que les familles, dans la souffrance, confrontées à la souffrance d'un enfant, il fallait qu'elles puissent vivre aussi normalement que possible pour leur bien à elles. Elles y avaient bien droit, et aussi pour le bien du patient. Alors, cette association a voulu créer quelque chose pour les patients. Ils en ont parlé avec un médecin, et ils ont convenu qu'ils allaient essayer, avec des moyens limités du bénévolat pur, d'accueillir, donc c'était leurs enfants d'abord, et puis les enfants d'autres très vite, de les accueillir, avec un accueil très attentif, très chaleureux, et de leur fournir des occupations. Et le fil d'Ariane a été créé dans ces conditions-là, et c'est lui qui, par la suite de son évolution, a débouché sur la mise en place des groupes d'entraide mutuelle. Il y a eu une grosse mutation, donc, en 2005, parce que jusqu'à présent, on pensait bien faire de les accueillir, de leur proposer des activités, des sorties, des jeux de société, des sorties de la journée. Et ils avaient l'air d'en être très contents. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore inventé, on n'avait pas su leur donner beaucoup d'initiatives. Et le grand virage est arrivé en 2005 à travers peut-être un texte. Mais c'est une chose curieuse, voilà un texte administratif qui a été pensé avec l'aide de trois associations. Il y avait l'UNAFAM, bien sûr, et puis il y avait une association de patients et une autre de soignants. Et en confrontant l'expérience des trois, ce qui n'avait pas été fait jusque-là, il a été défini un nombre de règles à mettre en œuvre pour leur donner beaucoup plus d'initiatives, sans doute les assister, les aider, les conseiller un peu, mais veiller à ce que ce soit eux qui décident un maximum de choses. Eh bien, c'est tout récent, qu'est-ce que c'est que 3 ans, Mais manifestement, on constate qu'il est apporté un plus à ces patients. Et je voudrais dire que même si les moyens dans le temps étaient bien limités, bien pauvres, il a quand même été, il a été réalisé quelque chose. Et quand des patients s'acceptaient bien, avaient surmonté toutes leurs appréhensions et vivaient aussi normalement que possible, eh bien, dont certains d'ailleurs pouvaient avoir un travail, dans leur comportement en général avec les autres, on constatait une chose étonnante, alors qu'ils traînaient un boulet, qu'ils étaient handicapés, eh bien, ils étaient à 150% de la moyenne nationale sur le plan du comportement avec les autres. Et ça, je crois que c'est une bonne confirmation des options qui ont été prises et du souci de toute cette démarche d'accompagnement et qui favorise le retour à l'autonomie.
Tu peux nous illustrer ce que tu entends par ces 150% là des
gens... À 150% au-dessus du comportement de la moyenne nationale.
Dans quelle situation de conflit de...
Non, dans la vie de tous les jours.
Moi, je veux bien compléter ce que dit Michel. C'est d'abord sur la tolérance entre eux. C'est bien mieux que dans le milieu ordinaire. Entre eux, les conflits arrivent à se résolver alors qu'ils arrivent avec des grosses difficultés. Hein ? Donc je crois que c'est ce que tu voulais dire. Hein, c'est ça, la tolérance. Et la deuxième chose, c'est l'entraide. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils allaient mieux quand ils accueillaient les autres et qu'ils s'entraidaient dans les activités. Et ça, ils le réalisent bien mieux qu'on ne le réalise en milieu ordinaire. Je veux dire, dans la société où on est confronté à tous nos soucis. Je crois que c'est ça ?
Oui, 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 tout à fait.
On a combien de places de GEM dans la Vienne ? 150 à peu près ?
Alors, il n'y a pas de place d'ouverte pour les GEM. Hein, c'est... Mais il y a trois GEM qui fonctionnent, deux avec le Fin de l'Ariane, un sur Poitiers, un sur Châtellerault, et un troisième avec la Cordée, qui en a un au centre-ville de Poitiers et qui va aller se décentraliser en zone rurale à partir de l'été prochain. Si tu permets, je voudrais dire quelques mots là. C'est peut-être le moment. Ce que vient de vous présenter, ce qui vous est présenté, on a l'impression qu'il y a déjà pas mal de choses. En fait, c'est récent, tout ça. Hein. Si on retourne quelques années en arrière, seul le centre hospitalier s'occupait des malades. Il s'occupait des malades de façon assez globale à l'époque, puisque depuis 1963, l'association L'Accordé existe, avait été créée par la communauté médicale de Laborie, en particulier avec l'investissement du professeur Périvier à l'époque, qui faisait des activités. Alors, il faisait un GEM sans le savoir, en fait. Il faisait bien sûr des activités thérapeutiques, mais aussi des activités resocialisantes. Ils avaient même monté des ateliers, ils avaient inventé les CAT avant qu'ils n'existent. 1963. Donc, beaucoup d'innovations à l'hôpital à ce moment-là, avec la création de l'essor ensuite, dès que les CAT ont pu être créés. Ça marchait déjà avec des ateliers au sein de l'Accordé. Création aussi d'une maison de retraite qu'on oublie peut-être, qui est Annuel L'Espoir, qui s'occupe des malades plus âgés, même s'ils n'ont pas l'âge de la retraite pour tous. Création d'une maison d'accueil spécialisée à Vouillé, aussi une cinquantaine de places. Tout ça, c'est du médico-social, c'est donc hors hôpital. C'est l'hôpital qui gère ça.
La maison d'accueil spécialisée, on a 48 places, il nous en faudrait 120, d'après les chiffres, c'est ça ?
C'est ça. Alors, il y a d'autres maisons d'accueil spécialisées qui ne sont pas dédiés aux psychiques, qui en accueillent certains, alors que celle-là est bien dédiée aux handicapés psychiques. Si on fait le tour des moyens, alors il y a aussi deux communautés thérapeutiques, une à Jasneuil avec l'entraide sociale Poitevine en partenariat avec le centre hospitalier Laborie, 15 places, et une à Pérou, qui est une organisation de la commune en partenariat aussi avec l'hôpital, ça doit être 14 places ou 15 places. Bon, tout ça pour dire qu'en fin de compte, les représentants des malades ont été très absents. La première création...
Des malades et des familles.
Oui, des familles. Oui, parce que ce n'est pas les malades qui peuvent créer tout seuls. La première création, en fait, c'est bien le fil d'Ariane, 1984. Hein, je crois que c'est ça. Et il n'y a que récemment qu'on s'est mis... La nouvelle loi sur le handicap de 2005 nous a donné un sérieux coup de main pour créer des structures au profit de ces gens-là. Donc, c'était pour rappeler qu'il y avait beaucoup de retard. On est dans un des départements quand même, qui reste encore les plus en retard dans de nombreux domaines de ce côté-là. Je peux rappeler aussi que décembre 2003, c'est-à-dire quand la loi de 2005 était déjà en préparation, les responsables de l'aide sociale du Conseil général prétendaient que le handicap psychique, ça n'existait pas et que c'était uniquement un problème médical, il n'y a pas longtemps.
Et la première fois que j'ai rencontré le vice-président du Conseil général de l'époque, il m'a dit, mais quand même, les familles ont bien une part de responsabilité là-dedans. Tu veux changer de micro ?
Voilà, c'était juste pour compléter au niveau capacité d'accueil des GEM. Il faut savoir qu'on peut avoir de nombreux adhérents inscrits. Ils ne viennent pas forcément tous les jours de la semaine. Donc il y en a qui viennent deux fois, trois fois, quatre fois. Mais on peut avoir plus d'adhérents inscrits, que ce soit sur Poitiers ou sur Châtellerault. Moi, je ne me sens pas capable de dire qu'il y a une limite à l'accueil. Ce que je regrette, c'est en particulier à Châtellerault, qu'il y a sûrement des personnes qui sont malades, isolées chez elles, et que personne n'accompagne jusqu'au fil d'Ariane. Ça, c'est, je crois que ça, c'est ce qui peut nous toucher le plus, c'est de savoir qu'on ne répond pas, même en ayant ces structures-là, à des besoins, alors qu'il y a de l'isolement, et qu'on ne sait pas comment toucher ces personnes. On ne sait pas comment toucher les familles, et on ne sait pas comment persuader les personnes d'au moins emmener, voir ce qui se passe.
Donc ça, c'est effectivement une des grandes caractéristiques de cette maladie, c'est que les gens qui sont touchés ne demandent pas. Et que les gens qui sont proches d'eux ne demandent pas non plus. C'est Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social, qui a dit un jour à notre président... vous avez exactement ce que vous demandez, puisque vous n'avez rien demandé. Donc, voilà.
Mais je pense que quand on est en grande difficulté, on n'a pas envie de demander.
Oui, mais dans les autres formes de handicap, ça paraît naturel de demander. Or, c'est un parmi d'autres. Alors pourquoi est-ce que c'est ces familles, puisque notre thème de ce soir, c'était pas les malades, c'est les familles. Hein, et on voit bien qu'on peine à rentrer dans le sujet, puisque s'il n'y a pas de solution pour nos proches, il n'y a pas de solution pour nous. C'est un peu le sentiment qu'on en a. Or, c'est peut-être pas tout à fait ça. Est-ce que vous voulez nous dire, monsieur et madame Bourdi, comment vous êtes arrivé à rejoindre l'UNAFAM, pourquoi ça a été difficile et comment vous avez un peu vécu votre itinéraire?
Bah, pour répondre déjà comment on est venu à l'UNAFAM, il faut savoir qu'il faut déjà un temps assez long pour avoir l'idée de se tourner vers ce type de structure parce que dans la situation qu'on vit, on est nous-mêmes souvent dans une position de déni par rapport à ce problème. Et le fait même d'aller voir l'UNAFAM, c'est déjà accepter de rentrer dans un problème qu'on souhaiterait éphémère, alors qu'en rentrant dans l'UNAFAM, on a le sentiment effectivement d'accepter qu'on est face à un problème qui va nous occuper longtemps. Donc je veux dire, on a à la fois besoin d'un certain nombre de choses et on n'est pas forcément prêt pendant un certain temps à aller les chercher. Si vous voulez, je ne sais pas s'il y a des professionnels ici présents ce soir, si j'essaye d'identifier les besoins qu'on peut avoir en tant que famille confrontée plusieurs fois à X années d'intervalle, je dirais qu'on a deux sortes de besoins. On a un besoin effectivement d'être reconnu comme étant aux marges de la cellule de soins, puisque finalement on est quand même en première ligne confronté aux problèmes souvent d'un enfant. Donc effectivement, on a besoin de connaissances concernant la maladie, on a besoin d'affiner nos attitudes dans le traitement des comportements du malade. Et là, on rencontre un certain nombre d'obstacles, si vous voulez, pour parvenir à trouver des réponses à ça. Et effectivement, quand on rentre à l'UNAFAM, on se retrouve sur le chemin qui nous mène à ces réponses. Mais dans les premiers contacts qu'on a souvent avec le milieu professionnel, on en est assez loin, et ça pour tout un tas de raisons. Je veux dire par là que dans le comportement du milieu soignant, il y en a qui sont tout à fait légitimes et qui sont du type d'accéder à un niveau de confiance dans la relation avec le malade, et que c'est les exigences pour arriver à ce niveau de relation avec le malade a tendance à maintenir la famille écartée du dialogue avec le milieu soignant. Et même quand on accepte de nous rencontrer, c'est effectivement en présence du malade, et souvent à un stade où pas plus le psychiatre que les parents, on est vraiment, si vous voulez, dans une situation qui nous permet d'accéder librement à toutes les questions qu'on aimerait se poser. Parce qu'on est à un stade où le diagnostic n'est pas fait, où on ne veut pas nous le dire. Donc il y a tout un tas d'ambiguïtés qui font qu'on gère mal cette période de relation avec le milieu soignant. Et pourtant, il y en a même une deuxième, si vous voulez, un deuxième aspect, c'est que on peut même avoir jusqu'à l'impression que le témoignage qu'apporte la famille est presque refusé par le milieu. C'est pas forcément général ce que je vais dire, mais c'est le sentiment qu'on a pu rencontrer nous, à un certain stade de notre rencontre avec, de notre première rencontre avec le milieu. C'est-à-dire que dans sa démarche diagnostique, l'équipe soignante semble ne pas avoir besoin de notre apport. Comme si notre apport, parce qu'il serait, je dirais, porteur de tellement de subjectivité, pourrait même être un facteur qui pourrait perturber l'élaboration du diagnostic. Donc ça, c'est deux aspects un peu techniques de la première relation qu'on a, si vous voulez, avec le milieu soignant. Et le deuxième aspect, c'est effectivement les besoins propres qu'on peut avoir, nous, pour gérer donc cette situation nouvelle. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de vous avez parlé de situations de type cataclysmique, mais c'est vrai que la situation dans laquelle on se retrouve quand survient ce type de problème fait qu'on a tendance à se retrouver dans une situation de solitude, comme l'a évoqué M. Dufour. Qu'on a tendance à se renfermer dans une situation de déni et qu'en fait on n'est pas du tout armé pour faire face à ces deux types de problèmes. Voilà en gros ce que je peux dire.
Merci. Oui.
Ajouter juste une petite chose. Oui, je voulais rajouter juste une petite chose. On parle beaucoup de diagnostic là. Je vais vous dire, même aujourd'hui, le diagnostic de mon fils, je ne le connais même pas exactement. La difficulté qu'il y a, c'est que plutôt, c'est de comprendre d'une façon générale. À la limite, peu importe. Au début, on ne connaît rien. Et je crois aussi que, effectivement, les premières réactions qu'on a eues lors des entretiens, ah ben, vous savez, il n'y a pas de diagnostic, on ne peut rien vous dire. Bon, on peut au moins nous expliquer un petit peu plus. Enfin, maintenant, ce qu'on sait avec le recul. Parce que la difficulté qu'il y a, c'est qu'on se l'apprend nous-mêmes, avec le temps et avec la patience. Tous, je pense. Hein. C'est, je crois que j'ai même l'impression qu'à un moment donné, on se cache, on dit, bon, il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas vous dire grand-chose. Voilà. Et une deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est au sujet du déni, effectivement. Alors, je sais que, bon, nous, on a été un petit peu, on a eu ce cas aussi. Il y a une chose que je pense qui est très bien, auquel on n'est jamais allé. C'est pas une critique, c'est justement, je me pose un peu la question, c'est qu'il y a des groupes de parole au CMP. Bon, la difficulté qu'il y a, c'est que quand on est en déni, c'est vrai que le fait d'être avec l'UNAFAM, on est un petit peu en dehors. C'est-à-dire qu'on sent pas la même chose. C'est-à-dire que quand on nous parle de ça, au départ, on a tendance d'abord à culpabiliser. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il est comme ça? Donc il y a encore des choses, je pense ces relations, ces communications, ces dialogues. Je pense qu'il faut arriver à faire sauter un petit peu toutes ces frontières, là, toutes ces choses, tous ces a priori. Et effectivement, nous, l'UNAFAM, on l'a appris un peu par hasard. Hein, et on est venu tout de suite. Effectivement, c'est une chose qui nous a bien aidé, quoi. Ça, c'est clair.
Évoquer des situations qui permettent de se dire oui, c'est ça qui me concerne. Le petit livret, là, donc, dans la première partie de notre soirée, je vous avais mis la dernière page qui était le service écoute famille national de l'UNAFAM. Ça, c'est la page de garde, la première page. Et donc, c'est un document qui est destiné d'abord aux professionnels accompagnants. Donc, vous voyez les parrains de cette opération l'UNAFAM, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc entre guillemets la tutelle des MDPH, l'Union nationale des CCAS et l'Union nationale des associations de soins à domicile. Donc ce petit livret vous décrit des situations qui peuvent être précieuses aussi bien pour les professionnels que pour les familles, pour voir que c'est de ça qu'il s'agit, ça se manifeste comme ça, et c'est ça qu'on peut faire. Donc ce document-là est téléchargeable. Vous allez sur l'un des sites nationaux, là, UNAFAM, CNSA, etc. Ça figure dans les fascicules téléchargeables. Donc vous pouvez tous y avoir accès. Est-ce que... Oui.
Je voulais dire qu'actuellement, nous sommes en formation pour famille. Donc, c'est quelque chose qui apporte énormément, hein, qui rassure et qui rapporte au même titre que l'UNAFAM. Hein.
Vous pouvez nous dire ce que c'est?
Donc, écoutez, ce sont des réunions qui sont proposées donc, et qui sont animées par un psychiatre, hein, où chacun expose son cas. Hein, et ça fait énormément de bien parce qu'on se rend compte effectivement que nous ne sommes pas tout seuls dans cette situation et qu'il y a des cas qui sont quand même dramatiques, hein, vraiment. Voilà.
Donc, ce service est proposé gratuitement aux adhérents de l'UNAFAM. Donc l'UNAFAM doit trouver les financements pour. Il y a des structures hospitalières. Pas dans la Vienne, hein, mais ailleurs, qui proposent ça comme accompagnement spontanément aux familles qui sont concernées par ce genre de problème. Donc je pense que ça fait partie des besoins des familles. Si nous n'avions plus à nous en occuper, et si les structures professionnelles le faisaient, ce serait ça de moins que les bénévoles auraient apporté, puisque l'UNAFAM dispose de zéro ETP pour faire le travail qu'elle fait.
Il y a un problème de ce genre qui prennent en charge les familles, hein, parce que c'est vraiment, on gagnerait beaucoup de temps, on ferait moins d'erreurs et on souffrirait beaucoup moins. Voilà.
Donc voilà, ça fait partie des revendications que nous allons porter auprès de la direction de la qualité de la relation avec les usagers et de la prise en charge du centre hospitalier Henri Laborie, c'est-à-dire vous, occupez-vous des malades, évidemment, c'est nécessaire, mais occupez-vous aussi des aidants familiaux proches. Et que ça doit rentrer dans vos tablettes d'analyse statistique aussi. Et c'est vrai qu'il est important d'interroger l'hospitalisé sur les questions suivantes. Est-ce qu'il s'est senti en sécurité à l'hôpital pendant son hospitalisation? Est-ce que sa chambre était propre? Est-ce que les repas étaient bons? Est-ce qu'il a pu parler à un médecin quand il en a éprouvé le besoin, etc. Mais on pourrait aussi élargir avantageusement le même questionnaire aux proches. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné, soutenu, compris, etc., etc.
Oui, juste pour préciser que le secteur 4 a fait des Pro Famille, enfin tout le programme Lieberman avec le docteur Rovetch à une époque. Pro Famille, c'est un programme psychoéducatif qui nous arrive du Canada via la Belgique. C'est peu connu en France. Il faut passer par un centre hospitalier belge, Marchienne au Pont, pour avoir les documents.
Et puis qu'il y a aussi des Suisses qui ont mis en place des démarches qui s'appellent des psy-trialogues. C'est-à-dire des choses où on a des groupes de parole à part égale de soignants, de parents et de malades. Alors, ce n'est pas forcément mon proche qui est dans le même groupe que moi. Il ne s'agit pas de rompre le colloque singulier médecin-patient. Il s'agit de parler de la maladie de mon proche devant un autre malade qui me restitue un certain nombre de choses et avec un autre soignant que le soignant de mon proche. Donc ce triangle-là marche, semble-t-il, très très bien et fait progresser les trois populations également.
Enfin, moi, je peux témoigner effectivement aussi par rapport à cette formation Pro Famille. Je veux dire que manifestement, le contenu de cette formation sent une expérience très très solide derrière, je veux dire, et on la sent totalement adaptée à toutes les interrogations qu'on pouvait avoir. Donc ça serait effectivement un progrès majeur si dès qu'on est confronté à un problème de ce type pour un de nos proches, on était branché sur ce type de formation qui apporte des réponses par rapport à la nature du problème qui survient, par rapport à toutes les habiletés à développer par rapport aux patients en termes de communication, en termes de limites, en termes... Je veux dire, c'est vraiment la réponse adaptée. Vraiment la réponse adaptée, quoi, je veux dire. Et plus, effectivement, la famille serait connectée à ce type de réponse, plus, je pense, elle serait armée à vivre ces problèmes. Ça, je veux dire,
et plus on pourrait faire baisser les chiffres que j'annonce brutalement sur les besoins. Ensuite, qui voir? Souvent on dit j'ai vu le psychiatre, j'ai pas vu le psychiatre. Je pense que les familles oublient l'ensemble du système soignant et notamment infirmiers, cadres de santé, assistantes sociales de service, etc., etc. Donc conseil aux familles présentes, à l'hôpital, il n'y a pas que le médecin. Deuxième question, on a évoqué la difficulté à rentrer dans le système de soins, que souvent ça passait par ce rite initiatique dur de la HDT. Et il y a aussi le CMP, donc le centre médico-psychologique. Et l'objection est souvent faite, mais ils m'ont filé un rendez-vous dans 3 mois. Ben, même pas vrai, le CMP de Beaulieu, là on vient de recevoir un courrier des médecins responsables, le CMP accueille sans rendez-vous de 9h à 19h du lundi au vendredi des gens qui ressentent le besoin de soins. Donc sachez-le, le centre médico-psychologique 14 rue Gay-Lussac à Poitiers. Vous retrouvez tous ces bons tuyaux sur le site de l'UNAFAM de la Vienne, hein, unafam86.free.fr. Donc on essaie de tenir ça à jour avec notre webmestre. Ces rubriques aide aux familles ou aide aux malades vous donnent ces renseignements-là. Autre besoin que nous avons évoqué, c'est l'urgence à domicile. Donc, dans tel ou tel département de France, il existe des services qui se déplacent, des services itinérants d'urgence. Bon, on nous a cité le groupe Eric dans les Yvelines, par exemple, qui est une structure qui correspond tout à fait aux besoins que nous ressentons. Mais il en existe ailleurs aussi. Donc voilà un petit peu le panorama qu'on voulait vous faire. Je ne sais pas, donc là, on a eu des prises de parole par les adhérents de l'UNAFAM le plus souvent. Il doit y avoir des professionnels ou des apprentis professionnels que tel ou tel de nos propos a surpris, heurté, ou des gens de l'UNAFAM qui veulent compléter. On est dans un univers consensuel, intégral et absolu. Là, les journalistes auraient pu venir, hein, la psychiatrie dans le consensus. C'est un scoop, ça. Parce que quand j'ai essayé de leur faire passer les messages pour l'organisation de cette semaine, j'ai eu deux fois la réponse. On sait que c'est important, mais on ne sait pas quel angle d'attaque pour le sujet, tellement c'est un sujet sensible. Donc on en a parlé en conférence de rédaction ce matin, on va vous passer la brève dans l'agenda, mais on n'a pas trouvé d'angle d'attaque. En voilà un que je vais pouvoir leur donner demain. Est-ce que quelqu'un veut aborder d'autres questions? S'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, comme nous le disons, qui devrait être le couteau suisse de la personne en situation de handicap et de sa famille. Quand on ne sait pas quel outil prendre sur le couteau suisse, il y a toujours la réponse aux besoins. La MDPH, d'après la loi du 11 février 2005, devrait être ça. Elle en est encore un petit peu loin. Donc, comme on dit dans les appréciations Vachard de l'éducation nationale, en progrès peut mieux faire. Donc, on s'y emploie parce que je siège par exemple à la commission exécutive et d'autres siègent à la commission des droits et pour l'autonomie. C'est vrai que le handicap psychique, ses manifestations, l'élaboration du projet de vie et du plan personnalisé de compensation, ça paraît pas évident comme ça quand on a fait autre chose dans son existence professionnelle. Or, cette question-là est évoquée par des documents d'orientation qui remontent quand même à quelques années maintenant, hein, dès après la loi de 2005. C'est repris dans les états généraux de la santé mentale qui se déroulent en ce moment au cours des mois passés. Donc, il doit y avoir absolument convergence entre plan de soins et plan personnalisé de compensation et projet de vie. Donc, si le centre hospitalier ne donne pas suite à la convention que la MDPH lui a envoyée en septembre pour ce partenariat, parce que je ne sais pas quoi, j'ai pas toujours pas réussi à comprendre où étaient les réticences, on n'y arrivera pas, parce que la sortie du soin, là, mon premier petit chapitre, la sortie du soin, dès qu'on sort du soin de crise, du soin du cure, là, eh ben on tombe dans le social ou le médico-social. Et celui qui tient les clés du social ou du médico-social, c'est la CDAPH de la MDPH. Et s'il n'y a pas de collaboration étroite en vue d'une convergence entre ce projet de soins et ce projet de vie, il n'y aura pas de plan de compensation pertinent. Donc on passera à côté de l'expression des besoins et on sera très content qu'il y ait un SAMSA de 15 places alors qu'il y a besoin de 1200. Donc là, il y a une responsabilité terrible de l'hôpital de ne pas afficher les besoins des personnes qui sortent de son système. Donc ça, c'est le message qu'on va porter dans les mois qui viennent. J'ai rendez-vous dès la fin de cette semaine avec les médecins de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Qu'on a besoin d'un SAVS d'urgence. On n'a pas besoin d'urgence d'un SAVS. Enfin, si, on a besoin d'urgence d'un SAVS, mais on a aussi besoin d'un SAVS d'urgence. C'est-à-dire toujours la même question, après le traitement de crise, qu'est-ce qui se passe à la sortie ? Parce que là, c'est stratégique. Les premiers jours, les premières semaines, si c'est pour retrouver les copains, comme ça a été dit tout à l'heure, et le shit et machin, le traitement de crise qui aura été efficace par des professionnels de santé efficaces, eh ben, on sera ramené à la case départ. Donc, on ne peut pas attendre que la CDP, que la CDA statue en disant oui, dans 6 mois, on vous donnera la réponse qu'effectivement, il relève du SAVS. Donc, mon optimisme me trahit et j'en me corrige. 12 mois, vous avez effectivement besoin d'un SAVS. Il sort bientôt, préparez-lui le filet SAVS qui fait qu'il ne tombera pas dans le trou dès qu'il aura franchi, je ne dis pas la grille de l'hôpital, puisqu'il n'y a pas de grille à la Borie, mais dès qu'il aura franchi la limite virtuelle de l'hôpital. Alors effectivement, il y a des propositions qui sont faites. Il y a des propositions d'hôpital de jour, il y a des propositions de rendez-vous réguliers au CMP, il y a des propositions de retour dans le service pour voir comment ça va, etc. Mais s'il y a le déni et s'il n'y a pas un mouvement spontané du malade, eh ben, on aura perdu. Et alors là, je vous fais réagir ? Non, même pas. C'est quoi un réseau ?
Un micro ?
Oui, on a un vieux projet là, qui date de 4 ans maintenant, qui a eu l'aval des financeurs en puissance, c'est-à-dire de l'URCAM et de l'ARH, qui est donc inscrit dans le PRIAC.
L'URCAM, l'Union régionale des caisses d'assurance maladie.
Voilà.
C'est-à-dire la Sécu.
Voilà. Et l'ARH, c'est-à-dire le préfet sanitaire pour la région. Ça a donc été inscrit dans le cadre du plan de la région, mais toujours pas de financement. Donc, alors, c'est une association de soignants, de paramédicaux, public et privé, ainsi que de représentants du secteur social, c'est-à-dire une espèce de petite structure légère qui amène du lien à tout ça, entre l'hôpital, entre le malade, entre les services sociaux, médico-sociaux, et les médecins libéraux, les infirmiers, et tout ça. Bon, il a l'air d'être mis un petit peu sur rail actuellement avec les états généraux de la santé mentale, ça apparaît dans les conclusions. C'est présenté demain matin, on va voir ce qu'il en reste.
Oui, une question. Une fois que le patient est passé à l'hôpital, est resté 15 jours, 3 semaines, 2 mois, il en sort, le relais qui normalement assure la suite, c'est le CMP qui est sectorisé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le CMP ne reçoit jamais la visite du malade ? Alors qu'en fait, l'hôpital a un interlocuteur, c'est le CMP du secteur du patient. Hein ? Et puis quand on parle de l'accompagnement social, je veux dire, c'est bien dans ce cas qu'il devrait s'articuler au niveau du CMP, puisque c'est normalement le CMP qui assure l'accompagnement médical à la sortie de l'hôpital, donc qui, d'une certaine manière, est déjà à même éventuellement de prescrire un certain nombre de choses en termes médical ou en termes social, ou alors qui est un service spécifique au sein du CMP vers lequel est renvoyé le... Normalement, je veux dire par là que théoriquement, il y a un édifice qui a sa cohérence, mais qui bute, et sans doute pour un certain nombre de raisons tout à fait légitimes, sur un certain nombre de difficultés et sur un certain nombre de cas qui ne sont pas résolus. Et c'est ce service, le CMP, qui normalement devrait se prolonger, je dirais naturellement, déjà au moins sur cette partie d'accompagnement social et éventuellement social et médicalisé. Quoi.
Donc soit c'est le CMP si le malade va à lui, comme disait Lagardère, soit c'est le SAMSA si on considère que c'est l'institution qui doit aller à lui. Hein, donc en gros...
Oui, mais de fait, il doit bien y avoir un certain nombre de cas assez nombreux où il y a une rupture qui s'opère dans l'édifice. Quoi. Et qui fait qu'effectivement, on a des gens qui se retrouvent dans la rue, qui sont peut-être en situation de déni, mais qu'il faut peut-être quand même accompagner, même dans leur situation de déni, quoi. Je veux dire, jusqu'au moment où... Je veux dire, c'est le même problème quand on est confronté à une éventuelle demande d'hospitalisation. Quand on est confronté à une demande d'hospitalisation, nous, on a vécu les deux cas. Quand le patient accepte de bon gré de franchir les portes de l'hôpital, il n'y a pas de problème. Quand il est en position de déni, avec quand même, dans bien des cas, une capacité de contrôle qui peut être conservée, c'est-à-dire que vous appelez le SAMU rencontre le malade, mais qui, lui, pas tout, est capable d'évaluer la situation et de donner le change à l'équipe qui se présente. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe après, quoi, hein? Je veux dire, on laisse quelqu'un qui repart dans la nature, et combien de temps, je veux dire, ça dure avant qu'il se retrouve confronté avec la structure hospitalière, quoi. Je veux dire.
C'est toute la question du débat de société. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à l'accompagnement? Moi, je serais tenté de dire que oui, et d'autres disent que non, soit pour des raisons éthiques, soit pour comme justification, je dirais, économique. Je suppose que c'est pas un hasard si les grilles d'évaluation du système hospitalier s'arrêtent aux limites virtuelles de l'hôpital par certains aspects, quoi. Ce serait quand même emmerdant si on devait pointer qu'il y en a un certain nombre de gens dont on a perdu toute trace, on sait pas ce qu'ils sont devenus, disparu, et ardoise magique, effacée du paysage. Donc, alors, peut-être qu'ils mènent une vie très heureuse dans un département voisin ou plus loin, mais quand même, quoi, ça pose question.
Oui, surtout quand vous imaginez deux secondes le cas que j'évoque, quand vous appelez le SAMU et que votre fils est en position de déni, qu'il est totalement capable de donner le change, en général, il s'en va, il coupe les ponts avec la famille. Ça veut dire que il est dans la rue et il n'y a plus de lien, quoi. Alors il faut qu'il y ait un incident majeur après, soit au niveau de l'ordre public, soit au niveau sur le lieu de travail, soit sur, pour qu'il y ait une relance du système de soins, quoi. Sinon
Mais moi, je parle de mon point de vue de malade. Je pense que, effectivement, le déni, à un moment, on a toujours été là-dedans. Je veux dire, on n'a pas du tout envie de se soigner. On est bien dans sa tête, bien. Tout est relatif. Quelqu'un de sa famille appelle le SAMU parce qu'il y a des problèmes. Mais je veux dire, dans le déni, on y a toujours été. Je veux dire, on est mal, mais quelque part, on n'a pas du tout envie de se retrouver encore à l'hôpital et de revivre ce qu'on a vécu. Donc ça, après, c'est vrai que, pour la famille, c'est très difficile. Je me mets à la place de la famille. Mais moi, j'ai vécu ça en tant que malade. Maintenant, je vais mieux, non. Je vais pas mieux parce que ça me prend très à cœur ce que vous dites. Mais c'est vrai qu'on a toujours été dans le déni. Moi, j'ai toujours été dans le déni. Sauf que, bah, 3 ou 4 fois, malheureusement, j'ai plus été dans le déni parce que, bah, c'était la vie ou la mort. Voilà.
Est-ce que les professionnels ont envie de nous poser des questions? Parce que là, on a sonné la charge sur l'ensemble de nos besoins. Est-ce qu'il y a des questions ?
Ouais, je vais essayer de m'exprimer, mais bon, c'est pas facile. Hein. Mais je vais, oui, moi, c'est le sujet de la famille. Moi, j'ai bien reconnu le monsieur là-bas qui parlait que la famille, c'est vrai qu'il s'enlace. Et puis, c'est vrai que de mon côté, c'était complètement l'échéance complète au niveau de la famille. Mais bon, oui, bon, ben, moi, j'ai commencé à être malade donc à mes 21 ans. Après, je me suis marié, j'ai eu deux beaux enfants. Et puis, ben, ma foi, ça a été une vie chaotique. Hein. C'est quand même 18 fois Henri Laborie. Alors, les épisodes plus ou moins longs, 3 semaines, 1 mois toujours, puis revenir chez soi, puis reprendre le boulot 1 mois après, ou 2 mois, 3 mois. Enfin, c'est vraiment invraisemblable, quoi. Et puis, ben, la famille est toujours autour de vous. Et puis, ça a duré quand même 31 ans, jusqu'au jour où les enfants ont grandi. Et puis qu'ils avaient ma fille avait un travail, mon fils était très bien placé aussi. Et puis après, ben ma foi, c'est vrai qu'entre temps, ils s'étaient rendus. Mes enfants m'ont même aidé dans mon travail et tout ça pour que je puisse conserver mon travail. Hein. Ils sont venus m'aider. J'avais 7-8 ans. Les gamins étaient avec moi, ma femme aussi. Tout le monde donnait la main pour que je puisse conserver mon emploi. Et quand j'étais sur la pente raide, quoi, comme ça. Et puis voilà, ma vie était faite comme ça pendant 31 ans avec la famille. Et puis après, les enfants grandissent, que je vous disais tout à l'heure. Et puis après, bah, ça a été la déchéance. Ma femme n'en pouvait plus. Et puis voilà. Puis elle est partie. Et puis elle a demandé le divorce pour faute grave. Je n'ai pas trop compris d'ailleurs. Elle m'a envoyé la lettre. Je l'ai reçue. J'étais encore à Henri Laborie d'ailleurs. Mais bon, j'ai fait face comme j'ai pu, bien sûr. Et puis je suis ressorti, et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance de trouver quelqu'un d'autre. Et puis ma foi, bah, depuis, ça s'est jamais reproduit. Henri Laborie, ça fait 5 ans maintenant. J'en suis sorti. Puis j'espère de ne plus jamais y retourner. Voilà ce que c'est, en gros, une maladie, vous voyez. Et puis ben ma foi, on est là ce soir et puis on se revigore au fil d'Ariane au bonheur de J'aime maintenant, parce que on a créé notre propre association et ma copine à côté à gauche, elle est présidente, et puis moi ils m'ont mis trésorier. Alors vous voyez qu'on peut, même après de telles échéances, on arrive à avancer. Alors je dis à tous, venez d'abord nous une petite visite vendredi prochain, ça nous fera plus grand plaisir, et puis là encore on pourra discuter, et puis voilà, puis à très bientôt.
Alors, ce qu'Yvon ne vous dit pas, c'est que quand il vient au fil d'Ariane, lui, il vient travailler au fil d'Ariane. Alors, il est là du matin au soir. Mais on peut toujours lui demander un service. Bon, je suis animatrice. Et en fait, je crois qu'il a trouvé sa place. Mais on l'a emmené en séjour de vacances. Et les premiers temps, on lui disait, allez, Yvon, tu viens, on t'emmène en séjour. Non, il y avait toujours des a priori, il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. Et le deuxième jour de vacances, il nous a dit, mais qu'est-ce que j'étais bête, pourquoi je ne suis pas venue plus tôt ? Et voilà, c'est la vie au fil d'Ariane, c'est un petit peu tous les jours, et c'est les adhérents aussi qui le construisent. Non,
mais je ne pouvais pas y aller plus tôt, parce que je n'avais pas encore la force.
Oui, bah oui, je comprends, oui, mais oui, oui.
Je préparais des bagages pour partir, et puis je n'étais pas capable. Il fallait que j'attende l'échéance dans 2-3 ans après, et c'est parti.
Merci. Y a-t-il d'autres informations, questions, observations ?
Donc ce sont des témoignages qui sont très émouvants. Mais vous savez que, je ne sais pas si ça sera le mot de la fin, mais au fil d'Ariane, c'est très joyeux. Et je crois qu'il faut le dire. Ceux qui ont de l'appréhension de venir ne vont pas voir des gens tristes. Ils vont voir des gens qui sont contents d'être ensemble et qui cherchent tous les moyens de passer des bons moments. Hein.
Merci. Donc, on en reste là pour ce soir. Il n'y a vraiment pas de questions. Il n'y a que nous qui avons causé. Donc, l'UNAFAM accueille les familles, les proches, les amis. On a des bulletins d'adhésion là-bas. Vous pouvez revenir au fil de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet unafam86.free.fr. Vous pouvez consulter le site de la Mission nationale d'appui en santé mentale, mnasm.fr. Enfin, tout ça, il y a des mines de renseignements un peu partout. Si on peut dire qu'on a une permanence hebdomadaire dans les locaux de l'UDAF, donc Poitiers Sud, derrière le village automobile, entre le village automobile, le lycée du Bois d'Amour et la déchetterie, la l'UDAF 24 rue de la Garenne, mercredi 14-16. On peut dire qu'on va bientôt réouvrir notre permanence de Châtellerault. On peut dire que Henri Laborie nous a saisis pour participer à la vie d'une maison des usagers sur le site de Laborie. Donc un complément d'accueil. Je ne sais pas quand ce sera effectif, mais enfin, disons qu'on va bien sûr pas refuser la proposition. Merci d'être venu et puis on se reverra peut-être un des soirs ou une des après-midi s'il s'agit du fil d'Ariane de cette semaine. Donc ne boudez pas le Dietrich. À différentes heures, vous avez le programme détaillé, etc. etc. Merci.